Alors, on avait... Ça marche?
Non, ça marche.
Bon.
Ça marche, c'est très bien.
Alors, on avait donc des cotisations qui se divisaient en trois, à savoir une partie donc, pour l'activité syndicale elle-même, fonds de grève, etc., etc. Et puis, deuxième partie, l'assurance chômage, très modeste. Et naturellement, la troisième partie, caisse maladie. Mais je dois préciser qu'encore que la cotisation à la part de la caisse maladie était facultative et que tout le monde n'était pas malheureusement assuré contre les risques de la maladie. Voilà à quoi se limitait l'activité du désigner d'entreprise, ce qu'il faisait en quelque sorte le sous-caissier du caissier du syndicat dans chaque atelier, chaque entreprise.
Et si un ouvrier justement n'avait pas cotisé à la caisse maladie ou que là, ce qu'il recevait ne suffisait pas, est-ce qu'il y avait une autre entraide, une autre solidarité?
Officiellement pas. Mais automatiquement,
comment ça se passait,
la solidarité jouait, on faisait une collecte le soir de paye, et c'est rare que quiconque rechigne à verser un franc ou deux francs d'époque pour un camarade qui se trouvait dans le besoin, par suite de maladie ou même d'accident. Donc la solidarité fonctionnaire.
Et au point de vue solidarité, au fond, personnellement, vous qui étiez jeune, célibataire, vous aviez un devoir envers vos parents. Est-ce que vous versiez quelque chose à vos parents ou bien comment est-ce que c'était?
Oh non, pas du tout. Mes parents avaient donc leur campagne du côté en Sud-Beauvais. Et à cette époque, je me souviens, mon premier salaire était de 1 franc 20 à l'heure, et lorsque j'ai fonctionné comme traceur, quelques deux ou trois semaines après mon engagement, mon salaire a passé à 1 franc 50, si ça n'est pas même 1 franc 60. C'est donc dire que la différence de salaire entre l'ouvrier établi et le traceur ou le débiteur était assez intéressante. Et on avait besoin de ça pour vivre, et jamais mes parents n'ont envisagé de faire verser un sou ou deux sous. Et personnellement, ça ne m'est jamais venu non plus à l'idée, parce que c'était bien entendu que je devais subvenir à tous mes besoins, y compris habillement, impôts et tout. Et ça n'a jamais posé de problème chez nous. De la part de mes frères comme moi, partis de la maison, s'ils retrouvaient une nouvelle maison, mais à part ça, les relations matérielles, ça n'existait pas. Voilà, en ce qui concerne donc, seulement ça, ce n'est pas la marche du syndicat. Disons que c'est la vie quotidienne. Et peut-être devrais-je m'étendre quand même sur la différence entre l'action syndicale d'alors et celle d'aujourd'hui. À cette époque, l'activité, par exemple, l'activité du syndicat des ouvriers sur bois, des menuisiers bénistes notamment, consistait d'année en année à améliorer la convention collective que nous avions conclu avec le patronat lausannois. Ces améliorations n'allaient pas toutes seules et il convenait assez souvent d'appuyer nos demandes par des assemblées extraordinaires de façon à mobiliser les ouvriers sur bois au maximum pour appuyer le comité dans ses démarches. Je dois préciser aussi qu'à cette époque, le mouvement syndical, l'organisation syndicale, la nôtre en tout cas, ne bénéficiait pas des services de nombreux secrétaires permanents, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y avait bien un secrétaire central qui était en même temps rédacteur de l'ouvrier du Voile du Bâtiment, un secrétaire local qui s'occupait surtout de l'assurance, de gérer l'assurance chômage et l'assurance maladie, mais tout ce qui concernait l'activité syndicale, les revendications, les discussions avec les patrons, c'était une affaire menée par le comité du syndicat et qui chaque fois désignait ceux qui croyaient les meilleurs pour discuter avec les patrons et ainsi mettre au point la nouvelle convention collective, l'améliorer si c'était possible, etc. Et alors, les ouvriers étaient tenus au courant, puisqu'on avait assemblé tous les soirs de paye, tous les 15 jours, ils étaient tenus au courant des discussions au fur et à mesure qu'elles se déroulaient, et ils participaient plus qu'aujourd'hui, directement et personnellement, à cette activité syndicale. Aujourd'hui, on a reporté ces responsabilités sur des secrétaires permanents, sur quelques délégués, mais la masse de ce qu'on appelle la base n'est pas toujours au courant de tout. Non pas qu'on lui cache quoi que ce soit, mais automatiquement, elle ne peut pas être renseignée comme nous l'étions autrefois. Je dois préciser encore que, à cette époque, l'Assemblée du syndicat, tous les 15 jours, c'était une assemblée à laquelle on tenait à participer pour connaître l'activité dans les ateliers, etc. Mais on n'avait pas la concurrence de la télévision ou de la radio. On allait volontiers à l'Assemblée du syndicat, sans quoi ben, on risquait de s'ennuyer. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y a la radio, il y a la télévision, quand il n'y a pas ça, il y a autre chose, mais enfin, il est vrai que l'activité syndicale d'autrefois n'était pas, disons, meilleure que celle d'aujourd'hui, mais elle était influencée d'une telle façon qu'on ne risquait pas la dispersion de l'intérêt comme c'est le cas peut-être aujourd'hui. Et alors j'en reviens à mes conditions de travail, et un beau jour on m'a dit il y a une place à Genève. Quand on m'a parlé de Genève, j'ai automatiquement pensé à tout ce que j'allais découvrir là-bas, parce que la section de Genève, grâce à notre journal syndical, vous voyez, passait pour nous pour un modèle d'activité, d'action syndicale pour laquelle on patientait de connaître le déroulement. Et en ce qui me concerne, j'étais heureux de trouver quelque chose là-bas, dans ma spécialité, et j'ai commencé mon travail chez Kazaï, une entreprise située dans le quartier des Acacias. J'ai commencé mon travail là et j'ai retrouvé un ou deux amis de Lausanne, en tout cas un qui m'avait déjà précédé. Mais contrairement à ce qui s'est passé à Lausanne, j'ai pu travailler en tout cas une semaine, si ce n'est pas davantage, sans que personne s'inquiète de savoir s'ils étaient syndiqués ou pas. Alors qu'à Lausanne, j'avais pu au maximum rester anonyme pendant 3 jours. À Genève, j'aurais pu l'être beaucoup plus longtemps.
On était moins syndiqués à Genève.
Moins, oui. Il faut dire que le mouvement ouvrier était déchiré entre des syndicats dans le nôtre et comme syndicat concurrent, celui des chrétiens sociaux, dont la figure de proue était député Béra, qui était secondé sur le plan syndical directement par, je ne me souviens plus le nom, mais enfin par la suite, c'était Lucien Genoux. Lucien Genoux. Et alors, à la première assemblée, c'est-à-dire que, si mes souvenirs sont exacts, il se trouve que dans la première quinzaine que j'ai travaillé là, un autre ouvrier s'était engagé, et selon une mode genevoise, paraît-il, les nouveaux engagés automatiquement offraient l'apéritif le soir de la première paye qu'ils faisaient à l'ensemble de leurs camarades de travail pour se faire agréer dans l'équipe. C'est ainsi que j'ai appris qu'un chrétien social invitait tous les ateliers de l'entreprise Kazaï à venir boire le Cantex, je ne sais pas à quoi se rapporte ce mot, ce nom, Cantex, au café des Acacias à la sortie du travail. Personnellement, apprenant qu'il s'agissait d'une suggestion chrétienne sociale, il va sans dire que je me suis inquiété de savoir qui de la FOBB viendrait. J'imaginais naïvement que ce serait contradictoire, mais ça n'était pas le cas. Et alors, je n'avais encore pris aucun contact avec le syndicat de Genève. J'ai téléphoné au secrétaire d'alors, c'est un camarade Bayler, pour lui annoncer que tel soir, il y avait assemblée au café des Acacias et qu'il faudrait absolument qu'il y ait quelqu'un du secrétariat qui vienne nous entretenir de la FOPB, non pas laisser le champ libre aux chrétiens sociaux. Il m'a promis qu'il ferait la commission, il trouverait quelqu'un, etc. Mais en attendant, je n'avais plus de nouvelles, et le soir de l'assemblée en question, j'étais assez inquiet de la tournure des affaires lorsqu'on s'est tous assis dans le café pour siroter notre apéritif. J'avais en face de moi un camarade Gachet, venant de la Gruyère, bourgeoise bien sûr, et qui, lui, était chrétien social, pas tellement par conviction, mais tout simplement parce qu'il a été, comme il m'avait expliqué, il avait été embrigadé chez les chrétiens sociaux par le curé de la paroisse de Genève en question. Et à un moment donné, il m'a dit, tu vois, le type qui rentre, il est rentré un monsieur assez bien mis, qui a toisé tout le monde, là, il m'a dit, c'est Béra. Moi, à l'ouïe de ce nom, j'ai dit, ça y est, tout est fichu, voilà, Béra qui vient. On est au moins, on était bien 20 à 25 ouvriers, là, dans cette salle. Je connaissais juste deux ou trois camarades de la FOBB. On n'avait pas eu l'occasion de fraterniser entre nous comme on le faisait à la mode lausannoise, soit avec la chic, soit avec la gousse d'ail, bref, on se connaissait mal. Et bon, Béra a dit quelques mots de bienvenue, il s'est assis, se réservant de parler encore, mais il voulait voir son apéritif aussi, en attendant que les retardataires arrivent encore. Je n'avais jamais vu Lucien Tronchet, mais quand la porte s'est ouverte et qu'un homme est apparu là, en casquette, veston de velours, cravate lavalière, j'ai dit ça ne peut pas être autre quelqu'un d'autre que Lucien Tronchet. J'en étais tellement persuadé intimement que je me suis tourné vers Gachet, mon camarade de tout à l'heure, qui était en face de moi à la table, et je lui ai dit, tu vois, le type qui rentre, et ben c'est Lucien Tronchet. Oh, il ne l'avait jamais vu non plus. Alors, voilà.
Et mon... comment il s'est comporté en entrant?
Qui?
Lucien Tronchet.
Ah ben, le geste habituel, salut les gars, très, très détendu, malgré qu'il n'avait pas l'air de connaître beaucoup de monde, mais enfin, il était à l'aise. Pour lui, des gars en salopette, c'était ça, c'était son monde. Alors, ce qui, je tiens à dire, c'est donc là que je l'ai vu la première fois, et évidemment que j'ai été inondé de bonheur, si on peut dire, à l'idée que mon appel n'avait pas été pour rien au secrétariat de la République, et puis que Béra, que je ne connaissais pas non plus, mais que je savais qu'il était un polémiste assez redoutable, aurait à qui parler. Mais je n'ai pas eu le plaisir de voir le match parce que Béra a tranquillement fini son apéritif. Il s'est rendu compte, je pense, qu'il n'était pas dans son milieu, là, parce que Béra, si Tronchet lui-même avait été maçon dans son jeune âge, Béra ne venait pas d'un métier du bâtiment, il était journaliste, c'était un intellectuel, et je pense qu'il était... Il s'est senti tout de même pas à sa place au milieu de cette assemblée d'ouvriers dans laquelle venait d'arriver Lucien Tronchet. Et au bout d'un instant, on a regardé, il avait disparu, il avait du reste bien fait. Et puis ça a été le tour de Lucien Tronchet, de nous adresser quelques mots à sa façon. Et il a rapidement rallié l'adhésion de toute la compagnie, là, et celui qui fonctionnait comme prisonnier de la FOBB, et bien ce soir-là, il a fait sa petite récolte des bulletins d'adhésion. Voilà mon entrée dans la vie de Lucien Tronchet. Bien sûr, par la suite, on a eu l'occasion de se retrouver dans des circonstances moins anecdotiques que celle-là. Soit à Lausanne, quand je suis rentré à Lausanne, soit de nouveau à Genève, quand à l'occasion les camarades genevois me demandaient pour participer comme orateur à un meeting en plein air, et ici ou là, ce que j'ai toujours accepté avec plaisir. Et puis ensuite, eh bien, j'ai eu l'occasion de côtoyer Lucien Tronchet tout le reste de ma vie, puisqu'en fait, on a fait partie du comité central à Zurich, auquel on participait, auquel on se rendait, où on se rendait tous les mois. Et c'était pendant le trajet d'aller-retour, vous pensez bien, c'était des discussions à n'en plus finir. Mais ce que je retiens surtout de lui, c'est que c'était un homme excessivement affable, courtois, et c'est difficile d'énumérer ses qualités. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, c'est lui, avec, évidemment, ne méprisons pas l'apport de ses braves compagnons, à commencer par son frère. C'est quand même eux, c'est cette équipe soudée autour de lui qui ont créé la FOBB et qui en ont fait le renom que l'on connaît maintenant à Genève, un renom qui a largement dépassé Genève, puisque à Zurich comme à Bâle, on a toujours été, et à Lausanne bien sûr encore, on a toujours été des admirateurs sans conteste de l'action syndicale menée par Lucien Tronchet et ses amis à Genève.
Pourtant, à l'époque, il était moins, il n'était pas autant admiré, puisque vous avez participé à la manifestation de soutien lorsqu'il avait eu un procès après l'affaire de Versoix.
Oui, bien sûr. Quand je suis arrivé à Genève, quelques jours après, en enfin, quelques semaines après, j'ai appris que qu'il y aurait un règlement de compte devant un tribunal et que le coupable de personne d'autre que Lucien Tronchet. Il avait, il faut dire une chose, c'est que il animait à Genève ce qu'on a appelé pendant des années la Ligue d'action du bâtiment. C'était une équipe de camarades se réunissant le samedi, à l'occasion d'autres soirs aussi, mais surtout le samedi, matin, après-midi, je veux dire, et qui visitaient les chantiers pour voir si le travail était bien abandonné ou bien si on continuait à travailler en fraude. Et la liste serait longue de citer tous les chantiers où la Ligue d'action du bâtiment a, comme on dit entre nous, a fait le vide parce que le travail n'était pas autorisé. Et un jour, cette Ligue d'action s'est portée à Versoix, c'est assez en dehors de ville pour essayer de pratiquer du travail au noir. Et la Ligue d'action du bâtiment s'est portée là-bas. Avec Lucien en tête, bien sûr, et on fait évacuer un chantier qui travaillait alors sans droit. D'où la plainte habituelle du patron pour violation de domicile, atteinte à la liberté du travail, etc., qui à cette époque menait tout droit devant un tribunal. Ça, c'est du reste déjà le cas également à Lausanne, puisque j'ai pu apprécier les beautés du tribunal, non seulement de son architecture extérieure, mais également depuis l'intérieur, coupable de diverses actions du genre que je viens de citer à propos de Versoix.
Les conventions n'étaient pas mieux respectées à Lausanne qu'à Genève.
C'est difficile à dire, vous savez, pas. Je ne me rends pas compte. À Lausanne, je crois que c'est... Encore une fois, c'est difficile à dire. J'aimerais bien dire qu'à Lausanne, ça a été respecté plus que n'importe où ailleurs en Suisse. Ça a certainement été le cas un temps. Mais je sais qu'à Genève, ils ont travaillé au respect du samedi après-midi. Absolument valablement, et puis avec tous les arguments à disposition, parce que des fois il se trouvait évidemment en contradiction avec ce qui violait la convention collective, non seulement des ouvriers mal conseillés, mais souvent des patrons qui, par ce moyen, essayaient de faire avancer leur travail, c'était en quelque sorte concurrence déloyale vis-à-vis en face des patrons corrects. C'est pas n'importe quel patron admettra que si chez lui il applique une certaine discipline, son concurrent de l'autre côté de la route, ou de la rue fait ce qu'il veut, ben évidemment tout le jeu n'est pas égal. Donc je pense que Genève comme Lausanne a énormément contribué à l'application des conventions collectives et à l'époque du temps de travail qui était les heures de congé qui étaient samedi après-midi qui maintenant s'étale sur toute la journée du samedi puisque on a la semaine de 5 jours à Genève aussi bien qu'à Lausanne. Voilà.
Et puis, pour en revenir à la vie syndicale, vous avez l'air d'avoir eu une vie syndicale moins intense à Genève. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que vous étiez vaudois, c'est parce que le syndicat était différent? Vous pouvez expliquer ça?
Non, ce ne serait pas juste de dire ça. Du reste, j'ai participé à plus d'une assemblée à Genève, qui était aussi nombreuse qu'on le faisait à Lausanne. Et où en fin d'assemblée, on se muait en Ligue d'action du bâtiment pour aller arrêter le travail à 11h ou minuit, d'ébéniste ou de menuisier qui travaillait à l'agencement d'un magasin à la rue du Rhône, ou je ne sais pas où. Non, franchement, la vie syndicale était assez trépidante à Genève. Elle se doublait par sur le marché, à l'époque, d'une lutte politique assez violente. C'était... C'était l'époque des Georges Ultramar, des Lascar, comme ils les appelaient.
Les syndicats ont beaucoup résisté contre les frontistes.
Oh, c'est sûr. Et en fait, même Léon Nicole, si vous avez lu Genève, autant des passions, vous y trouverez que même Léon Nicole, qui n'aimait pas Lucien Tranchet, du reste,
pourquoi?
En attendant, le fameux soir du 9 novembre, il se rendait compte que tout Nicole qu'il était, parti socialiste fort qu'ils étaient, ils avaient quand même besoin de renfort. Il a téléphoné à Lucien Tranchet pour lui dire, dis donc, tu viens nous épauler avec les syndicalistes, parce qu'il savait bien que... Et puis du côté de Tranchet, il n'avait pas tellement à hésiter pour gagner en école, pour savoir, simplement pour la raison que, un triomphe de Georges Ultramar sur le plan politique, c'était en même temps un triomphe de Béra sur le plan syndical. Donc, par obligation, toute cette gauche disparate devait marcher ensemble.
Et puis pour nous donner un tableau des conditions de vie, qu'est-ce que ça voulait dire d'être un jeune vaudois à Genève? Je veux dire, où logiez-vous et...
Eh bien, tout d'abord, en arrivant à Genève, on se rend compte que c'est une petite Suisse en miniature à laquelle il faut ajouter la Savoie. Dans l'entreprise où j'ai atterri chez Casali, il y avait trois ou quatre ouvriers qui, savoyards, qui faisaient tous les jours la route entre la Savoie et Genève. Et puis vous savez aussi que Genève est un îlot de retrait particulièrement apprécié par les Suisses allemands. De telle sorte que de la place pour les romans, il y a beaucoup de valaisans. Mais la place pour les cantons romans traditionnels, c'est-à-dire Vaud, Neuchâtel et Genève, elle était assez congrue. Si on tient compte de la présence des Suisses allemands, des Valaisans, des Savoyards. Mais on s'entendait bien, on s'entendait bien. C'était un cosmopolisme de bon aloi. Chacun apportait sa pierre à l'édifice. C'était pas mal du tout. Ça changeait assez avec Lausanne, que voulez-vous. Elle est restée le rendez-vous des fils de paysans vaudois, ça c'est pas d'aujourd'hui, ça ne peut pas finir.
Tandis que Genève était plus mélangée.
Ouvert.
Vous aviez une chambre, vous étiez en chambre chez quelqu'un.
J'étais en chambre, oui.
Dans un café ou dans une famille?
Pas bien loin de l'usine. Et j'étais en chambre là. Il y avait précisément cet ami Garchet, qui devait être lui qui m'avait donné l'adresse de sa pension. Et on était là, 15 à 20, dont 3 ou 4 ouvriers de chez Casali, puis d'autres personnes travaillant dans un quartier.
Et qui tenait la pension?
Et oui, voyons voir, qui c'est qui tenait bien, voilà, quelque chose qui m'a échappé, je ne peux plus vous dire. Mais enfin, c'était une pension, c'était la bonne pension, c'était pas la petite pension crasseuse de je sais pas quel quartier ça peut être. Non, la petite pension, risquons-le, la petite pension bourgeoise où je fais bon se retrouver. Oui, c'était bien.
Et puis, vous pouviez assumer les frais, vous pouviez payer la pension.
Ah oui. Alors,
vous n'avez pas eu de problème financier?
Non, moi je n'ai pas eu de problème financier, parce que la raison que je vous ai dit,
Vous n'aviez pas de famille à entretenir, c'est ça?
Non, alors j'ai bien gagné ma vie.
Je pense que les problèmes, c'était plutôt pour les gens qui avaient une famille entretenue.
Voilà, ceux-là, ben, c'est différent. Mais moi, je n'ai pas connu ce genre de problème pour dire que j'avais été élevé dans un milieu où on savait qu'un franc, c'était un franc. Mmh. On ne parlait pas de franc, on parlait de 10 centimes. Mmh. 10 centimes, c'était 10 centimes, ça m'était resté, non pas du point de vue absolument égoïste, mais simplement raisonnable pour la maman, 2 sous, c'était 2 sous, et puis pour nous aussi, il ne fallait pas se croire riche parce qu'on avait 20 centimes. Puis ça m'est resté, moi, je ne m'en suis pas porté plus mal parce que j'ai autant que possible essayé de ne pas dépenser plus que j'ai gagné. Et puis c'est comme ça qu'on se sentir le mieux. Et voilà. Les souvenirs maintenant, je peux dire que pour en revenir à Lucien Tronchet, sa renommée évidemment a dépassé largement les frontières du canton.
Moi ce qui me frappe, c'est ses idées hein, qui ont marqué.
Oui. Il a fait partie les dernières années du Parti socialiste du Genevois parce qu'il estimait que finalement c'est très joli d'être libertaire, anarchiste, mais tout de même il y a des lois et si on peut contribuer à améliorer ces lois dans le sens d'une meilleure protection du travail, que finalement c'est quand même un parti politique qui peut le faire, personne d'autre. Mais sa ligne directrice, si on peut appeler ça, c'était l'anarcho-syndicaliste. Et, en mettant le mot anarcho devant syndicaliste, j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, il n'y a pas de durée, pas du tout, à Barcelone pendant la guerre civile, où il avait des relations, j'allais dire commerciales, c'est pas gentil, il avait des relations de solidarité avec les copains de Barcelone, et je pense qu'il y a plus de. Il y a davantage qu'un canif qui a dû passer de Genève à Barcelone par ses mains. Et j'ai eu l'occasion aussi de me rendre, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans maintenant, à Paris, où j'ai fait la connaissance d'anciens secrétaires internationaux, comme Irving Brown, par exemple, de la Fédération américaine du travail, qui était du reste venu à son ensevelissement. Mais ils avaient été bons amis depuis longtemps, ils avaient, même depuis l'Amérique, ils avaient apprécié le travail du Tronchet à sa juste valeur. C'est des hommes qui marquent une époque. En tout cas, ce qui me concerne, je pense, je ne veux pas dire que j'ai appris beaucoup de lui. Ce serait peut-être le mettre sur un piédestal trop haut, mais incontestablement, j'ai été influencé parce qu'en rentrant, lorsque j'ai eu fait mes 3 ans de Genève, je suis allé travailler ensuite à peu près 3 ans à Montreux, dans la plus grande menuiserie et bien historique de Suisse, chez Elde. J'ai tenu 3 ans là-bas, j'ai gardé mes fonctions de président de la commission d'entreprise, en même temps que j'étais toujours traceur-débiteur. Et ensuite, j'ai rejoint Lausanne, mais le bain de Genève a été profitable, incontestablement. Je n'ai pas Je n'ai pas demandé la vie de tranchée pour tout ce que je faisais, loin de là. Mais il y avait du reste pas besoin, il suffisait de réfléchir un peu aux situations qui n'étaient pas toujours la même de Genève ou de Lausanne, mais on trouvait toujours le moyen de se rencontrer. Et il m'a laissé beaucoup, sans m'avoir donné de leçons, il m'a laissé beaucoup, beaucoup.
Voilà. Je vous remercie.